D'emblée, je m'excuse pour ma voix, mais j'espère que vous arriverez à suivre malgré cela. Je voudrais aussi vous remercier pour toutes vos prières pendant le séjour en Algérie. Ça s'est très bien passé et je vous donnerai quelques nouvelles tout à l'heure lors des annonces. Maintenant, nous voulons faire place à la parole de notre Dieu et nous lirons dans l'évangile de Luc au chapitre 14. Nous lirons dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, quelques paroles de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Ou « Quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à l'encontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Jusqu'ici notre lecture. Aucun leader politique ou religieux qui chercherait à faire du chiffre ne dirait ces paroles que nous venons d'entendre à ceux qui veulent le suivre. Jésus ne veut pas que les gens le suivent sans connaissance de cause. Il faut que les disciples de Jésus sachent à quoi ils s'engagent. Il faut qu'ils sachent à quoi ils devront faire face si la situation l'exigeait. Ceux qui veulent suivre Jésus dans son enseignement et son exemple doivent s'engager consciemment, après réflexion, et non pas par défaut et encore moins par intérêt quelconque. Suivre Jésus, répondre favorablement à son appel, implique une soumission aussi totale que possible au Maître, à Jésus, implique une fidélité exclusive à lui. De ce fait, le disciple peut se retrouver en porte-à-faux avec son entourage, dans ce milieu, avec son milieu professionnel, et même, parfois, avec les membres de sa propre famille. Si cette situation de conflit ne touche pas systématiquement tous les chrétiens, il est bon de rappeler que nous sommes appelés à faire passer les exigences de Jésus en premier, quel qu'en soit le prix. Sur son chemin vers Jérusalem, Jésus mit en garde les foules qui le suivent contre un engagement léger, non réfléchi et pas calculé. Pour que la foule ne pense pas avoir à faire un rabais de plus, un rabais comme les autres, Jésus exige une priorité absolue. Il exige une priorité absolue de ceux qui veulent être ses disciples. Dans un premier temps, il formule cette exigence en termes d'avertissement, dans les versets 26 à 27. Ensuite, il confirme cette exigence avec les deux paraboles, les versets 28 et 30, et puis les versets 31 et 32. Pour terminer, il rappelle que pour être son disciple, il faut renoncer à tout. C'est le verset 33. Pour éviter tout malentendu, voici ce que Jésus dit aux foules qui le suivent. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa femme, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ces paroles peuvent être jugées dures à entendre par le lecteur contemporain. Et pourtant, c'est par ces paroles que Jésus choisit d'inviter les gens au sein de la foule, à ne pas rester uniquement à l'attachement extérieur, mais à aller plus loin dans leur attachement à lui. La foule exprime son attachement à Jésus, son attachement extérieur, par sa suivance. Mais cette suivance n'est pas suffisante pour Jésus. Elle est loin d'être satisfaisante. Jésus invite les gens de cette foule à devenir ses propres disciples. Il les invite à un attachement intérieur à lui, à un attachement réel à sa personne et à son enseignement, et ne pas se contenter d'une suivance à distance, molle, voire parfois lâche. En invitant les gens au sein de cette foule à devenir disciples, Jésus ne leur propose pas un statut spécial pour eux, un statut au rabais. Mais il leur rappelle l'exigence d'un attachement réel, qu'un attachement réel peut avoir dans la vie de ceux et celles qui décident de franchir le pas. Suivre Jésus peut conduire à renoncer à tout ce qui est naturellement le plus cher à la personne, les membres de sa famille et même sa propre vie. Marcher avec Jésus peut conduire le disciple dans des situations douloureuses, difficilement supportables à vue humaine, c'est porter sa croix. Suivre Jésus jusqu'au bout, devenir disciple de Jésus, c'est haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs. Vous remarquerez qu'il s'agit aussi bien de ses parents que de ses propres enfants, et aussi de ses frères. Aucun membre n'est laissé de côté. Comment comprendre cette déclaration de Jésus? Que veut-il dire par cela? Veut-il détruire la cellule familiale? Que veut-il dire par ces paroles fortes? D'abord, il faut souligner, aussi bien pour Jésus que pour les autres auteurs bibliques, la cellule familiale a une importance dans le cœur de Dieu. Le psalmiste, dans deux psaumes qui se suivent, le psaume 127 et le psaume 128, déclare dans le psaume 127 que c'est Dieu qui bâtit la famille ou la maison, et dans le psaume 128 que c'est Dieu qui bénit la famille. Dans toute la Bible, la famille a une grande importance aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul va même jusqu'à dire que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier les membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle ou un incroyant. C'est 1 Timothée 5, le verset 8. Donc, il me semble inutile d'essayer de forcer des portes qui sont déjà bien ouvertes. La famille, dans la Bible, a une importance capitale et le Seigneur a un projet tout particulier pour la famille. Donc, pour Dieu, la famille est une structure importante qu'il faut protéger contre toute forme d'attaque, en particulier dans notre société, en ces temps, dans nos temps. Donc, la famille a vraiment besoin d'être protégée. Si Jésus s'inscrit dans cet enseignement qui donne de l'importance à la famille, comment comprendre donc ce qu'il dit à ceux qui veulent devenir ses disciples? Comment comprendre ce verbe « haïr » qui est un verbe très dur, voire parfois même violent? Matthieu peut nous aider à comprendre dans quel sens il faut interpréter ce verbe « haïr » employé ici par Luc. Dans le passage parallèle dans notre texte, Matthieu n'emploie pas le verbe « haïr » mais emploie celui « aimer plus ». Voici ce qu'il dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi ». Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est Matthieu 10 au verset 37. Jésus n'appelle pas donc à la haine de sa famille, ni d'ailleurs à la haine de quiconque. Rappelons-nous que c'est lui qui a appelé à aimer même les ennemis. C'est lui qui a appelé à aimer le prochain. Notre devise nous le rappelle. L'amour en acte, en parole et en acte. Par contre, Jésus appelle très clairement ici les disciples à lui accorder la priorité ainsi qu'à son enseignement dans toutes les situations, même lorsque la famille serait opposée à lui ou à son enseignement. Et sur ce point, les disciples doivent être au clair. Si la famille s'oppose à l'enseignement de Jésus, à Jésus lui-même, le disciple doit savoir que le Seigneur passe avant la famille, avant les parents qui lui ont donné naissance, avant ses enfants à qui il a donné naissance. Le Seigneur passe avant tout. Ça doit être clair dans l'esprit du disciple. Ce principe est aussi vrai pour tout autre choix, y compris lorsque les autorités, pas forcément la famille, les autorités politiques ou les autorités religieuses, se posent à Jésus et à son enseignement. Le disciple doit savoir donner priorité à son maître. Rappelons-nous de Pierre et Jean qui ont répondu au Sanhédrin, l'autorité religieuse, « Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Acte 4, le verset 19. Jésus appelle ses disciples à le préférer à leur propre famille. En toutes circonstances, et si la situation l'exigeait, de le choisir au détriment des membres de sa propre famille, aussi bien de ses enfants que de ses parents. Puisque je viens de rentrer d'Algérie, permettez-moi d'alimenter un peu mon message par quelques témoignages qui viennent de nos frères et sœurs de l'autre côté de la Méditerranée. Je pense ici à un frère qui s'appelle Mortar. J'étais à l'église d'Erzamkouran, j'ai prêché dans cette église, une église de 200 à peu près, 250 membres. Et après mon message, un jeune s'avance vers moi. Plus qu'il s'approchait de moi, plus que sa marche me disait quelque chose. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il s'agit bien d'un très bon ami avec qui j'ai fait tout mon lycée. On était presque dans la même table à bien des reprises. Bien sûr, un ami à qui j'ai parlé de l'Évangile à l'époque, mais qui a résisté violemment à l'Évangile. Il est resté musulman, mais cela ne nous a pas empêché de rester amis. On était de très bons amis, et ma joie était immense de le voir appartenir au Seigneur, faisant partie de cette église-là. Ce frère a été placé, il m'a raconté, devant un choix très difficile, par son père qui occupe un poste très important dans l'académie, dans le département de Béjaïa. Ce frère travaille dans l'enseignement, donc son père travaille à l'académie, il exerce des responsabilités importantes, en quelque sorte il est son chef sur le plan professionnel. Et en plus de cela, ils ont hérité beaucoup de terres, beaucoup de richesses. Son père lui a demandé, en apprenant que son fils est devenu chrétien, il lui a demandé de renoncer à la foi en Jésus. Ou bien, c'est lui qui se retrouverait dans l'obligation de renoncer à son fils et de ne plus le considérer comme son fils. Et par conséquent, de le déshériter de toutes les richesses familiales héritées depuis des générations. Vous vous rendez compte de la difficulté dans laquelle il se retrouve, ce bonhomme? Ce frère a dit à son père combien il le respectait, combien il l'aimait beaucoup, combien il était reconnaissant pour tout ce qu'il lui a apporté. Mais il lui a fait comprendre très clairement qu'il n'est pas question de renoncer à Jésus. Il n'est pas question de renoncer à Jésus, même si son père devait le lâcher, le renoncer. C'est-à-dire même il pouvait y aller à la mairie pour l'enlever de l'ivraie de famille. Donc ça peut aller très loin. Ce n'est pas simplement des formalités verbales, mais aussi administratives. Suite à cette prise de possession, les contacts entre les deux hommes sont rares, voire inexistants. Les contacts avec tous les uns et les autres membres de la famille sont devenus difficiles, voire impossibles dans certains cas. Pour quelqu'un qui a grandi dans une culture communautariste, comme c'est le cas en Algérie, le privé des relations familiales est quelque chose de très, très éprouvant. C'est quelque chose de très, très difficile pour faire face à tous ces déchirements suite à la conversion. C'est la grâce de Dieu qui permet de faire face à ces situations-là. Et ce frère, il était très, très heureux d'appartenir au Seigneur et de se trouver au sein d'une famille de 200 ou 250 membres qui l'entouraient merveilleusement. Ceux qui ont grandi dans des familles chrétiennes, c'est le cas, je pense, de la majorité d'entre nous ce matin, doivent comprendre l'avantage qui est le leur, à savoir qu'ils n'ont pas, du moins, à faire ce choix, même si, bien sûr, parfois ils doivent faire d'autres choix qui ne sont pas forcément moins difficiles pour l'Évangile et pour la foi. Et pour terminer sur cette question de la famille, j'aimerais rappeler la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison ou famille, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Telle est la promesse pour ceux et celles qui se retrouvent dans l'obligation de renoncer à la famille à cause du nom de Jésus. Non pas à cause de notre mauvais caractère, à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, faire la part des choses. En plus des membres de la famille, Jésus demande à ses disciples de le préférer plus que leur propre vie. Le disciple est appelé à donner priorité à Jésus, au projet de Jésus, à la mission de Jésus. En d'autres termes, ce ne sont pas les projets personnels, voire égoïstes par moments, que le disciple doit favoriser dans sa vie, mais bien au contraire, il doit donner la priorité à son maître. Le disciple accorde à Jésus la priorité sur ses désirs, sur ses intérêts et sur ceux de sa famille. Faire ce choix risque de nous mettre en difficulté avec nos amis, nos collègues de travail et tout simplement au sein de la société. Nous pourrions être mis au défi de confesser Jésus devant des hommes menaçants, violents, parfois même cherchant à ôter la vie. Ce n'est pas toujours le cas. Ça pourrait aller de simples intimidations, des gens qui se moqueraient de nous, tout simplement parce qu'on est chrétien, jusqu'à aux personnes qui peuvent nous menacer de nous ôter la vie si on confessait notre Seigneur Jésus. Donner la priorité à Jésus sur notre propre vie, c'est le confesser devant les hommes, à n'importe quel prix. N'importe quel prix, c'est-à-dire qu'il peut aller jusqu'au sacrifice ultime. C'est Matthieu 10, les versets 32 à 33. Ici aussi, j'aimerais vous donner un deuxième, et ce sera le dernier témoignage, de quelques que j'ai entendu à la pastorale, à l'EPA, l'église protestante d'Algérie. C'est la seule famille d'églises qui existe actuellement en Algérie, qui regroupe une trentaine d'églises. C'est le témoignage d'un pasteur et des membres de son conseil d'église. Voilà, eux, ils n'ont pas peur, donc je dis le nom. C'est l'église de Sahal, c'est en Kabylie. Si vous voulez leur rendre visite, ils seront très heureux. Ce pasteur et les membres de son conseil ont acheté un terrain et ont commencé à construire une église. Et après la plateforme, ils ont commencé à construire des murs. Et à chaque fois qu'ils montaient un mur, les terroristes venaient le soir pour les démolir. Ils reconstruisaient le lendemain, les terroristes venaient pour démolir le mur. Après un temps de jeûne et de prière, ils ont cherché la face de Dieu, ils ont réfléchi, que faire, et ils ont tout simplement décidé d'y aller dormir sur place, travailler et dormir sur place. C'est une décision suicidaire lorsqu'on sait qu'on a affaire à des terroristes. Ils seraient ni les premiers ni les derniers à laisser leurs enfants pleurer, leurs femmes pleurer, etc. Et l'Église aussi pleurait. C'était une décision suicidaire. Tous les collègues, tous leurs amis leur ont dit, écoutez, soyez un peu sages, arrêtez la construction, on laissera le temps passer et puis on verra ce qu'on va faire. Mais eux, ils ont tenu à aller jusqu'au bout. Un soir, comme d'habitude, les terroristes passaient et ce pasteur et son conseil d'anciens, enfin les membres du conseil, étaient là et ils les ont empêchés de démolir ce qu'ils venaient de construire. Ils leur ont fait comprendre qu'ils étaient sur une propriété privée et qu'ils n'avaient pas le droit d'accès. Confesser Jésus devant des hommes en est une chose, surtout des gens qui veulent nous tuer, mais défendre le projet de construction d'une église, si on veut dire le projet du Seigneur, en est une autre. Il me semble que ce pasteur et son conseil ont été plus loin que ce que le Seigneur nous demandait ici. D'ailleurs, comme je disais, tous leurs amis, leurs collègues, les ont conseillés de ne pas tenir à ce projet, d'attendre. Mais les terroristes, ce soir-là, ils sont partis. Ils sont revenus le soir d'après. Ils les ont retrouvés. Le soir d'après, ils les ont retrouvés. Ainsi de suite, au bout de quelques semaines, les terroristes ont abandonné la partie. Ils ont abandonné la partie avec probablement la conviction que ces gens-là avaient quelque chose que eux n'avaient pas. C'était vraiment admirable la manière dont le Seigneur leur a accordé cette délivrance. C'était admirable, c'est quelque chose... Vraiment de très encourageant. Et maintenant, cette église a son local. Ils se réunissent régulièrement. Ils louent, ils prient. Bien sûr, avec beaucoup de sagesse, peut-être un peu plus de sagesse qu'avant. Mais en tous les cas, ils ont leur local et ils continuent à célébrer le Seigneur. Là aussi, j'aimerais rappeler une parole de notre Seigneur qui nous invite à craindre Dieu plutôt que les hommes. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, dit Jésus à ses disciples. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Nous ne sommes pas tous appelés à vivre des situations aussi extrêmes, mais nous devons savoir que certains de nos frères et sœurs de l'Église persécutée, nous en avons parlé le mois dernier, certains de nos frères et sœurs vivent cette réalité au quotidien. Je pense que parmi l'une de nos responsabilités, c'est de penser à eux dans la prière, de demander au Seigneur de leur accorder toutes les ressources spirituelles, physiques, même psychologiques, parce que ce n'est pas difficile de craquer dans ce genre de situation, pour que vraiment ils demeurent des témoins vivants de la grâce et de l'amour de notre Seigneur Jésus, même dans ces situations difficiles. Préférer Jésus à sa famille, à sa propre vie, c'est porter sa croix, c'est assumer toutes les situations, y compris les plus exigeantes pour nous. C'est consentir de bien des sacrifices pour l'accomplissement du plan de Dieu. C'est parfois aller jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice ultime. C'est le cas d'Étienne. C'est aussi le cas de notre Seigneur Jésus-Christ qui était le premier à payer le sacrifice. C'est lui qui a été cloué sur l'infâme bois pour qu'il nous révèle la pensée de notre Père Céleste, pour qu'il nous révèle le projet du Père, la volonté de notre Père Céleste pour tous les hommes. Jésus nous appelle à un attachement absolu, total à lui. C'est pourquoi il nous invite à bien réfléchir avant de dire « Oui Seigneur, je veux te suivre, je veux devenir ton disciple ». Si Jésus a formulé un avertissement aussi clair dans les versets 26 et 27 du texte que nous avons lu, ce n'est pas pour faire fuir des futurs candidats au poste de disciples, mais pour leur dire la vérité, pour leur dire à quoi ils risquent de faire face une fois devenus disciples. Pour que les futurs candidats au poste de disciples de Jésus comprennent bien l'importance de leur engagement, Jésus raconte aussi deux histoires ou deux paraboles où il confirme l'avertissement qu'il vient de lancer. Par ces deux paraboles, Jésus amène Jésus amène ses auditeurs à reconnaître une exigence du sens commun. Par ces deux paraboles, Jésus va faire comprendre d'une manière ou d'une autre manière qu'il faut se garder de recevoir son message ou de se dire son disciple de façon irréfléchie ou bien superficielle. Avant de se mettre en mouvement vers Jésus, il faut calculer combien cela peut ou risque de coûter. Quelle honte pour un paysan qui commence à construire une tour et qu'il n'arrive pas à achever, faute de moyens. Comment le prendraient les gens de sa communauté? Il perd toute crédibilité à leurs yeux. Il ne peut plus être pris au sérieux. C'est un coup dur pour sa réputation au sein de la communauté. Avant de commencer la construction, cet homme aurait dû calculer combien cette tour lui coûterait pour s'assurer que ses ressources lui permettraient d'aller jusqu'au bout de son projet. Cette exigence de calcul est aussi nécessaire pour un roi qui part en guerre contre son ennemi. Il serait incompréhensible qu'un roi engage toute une guerre sans évaluer les forces ennemies. Nous avons des exemples contemporains et c'est tragique de voir les bilans faits par des spécialistes. Il est tragique et même ridicule qu'un roi pompeux fasse des grandes promesses, des déclarations enflammées pour s'apercevoir au milieu des affrontements que ses effectifs sont trop faibles pour combattre les forces de l'adversaire. Comme pour le paysan, ce roi aurait dû prendre le temps de bien calculer le coût avant de se lancer dans cette bataille. Pire, si pour le paysan les conséquences le touchent lui seul, ce roi insensé engage non seulement sa personne, mais aussi son armée et le bien-être de son pays. Ces deux histoires révèlent la folie de ne pas prendre le temps pour réfléchir à son engagement, aux conséquences de ses actes et aux implications de ses décisions. Jésus ne veut pas des disciples qui agissent à la manière de ce paysan et encore moins de ce roi. Jésus veut que les candidats au poste de disciples réfléchissent mûrement à leur engagement, à leur décision de le suivre et de devenir son disciple. Car, comme nous l'avons vu, être disciple de Jésus peut impliquer des situations de conflit, même contre soi-même. C'est pas peut impliquer, implique automatiquement, car le royaume de Dieu, avec la venue de Jésus, fait son irruption dans le monde. Il y a un conflit, et même étant disciple, nous nous retrouvons dans une situation de conflit avec le péché, avec le monde, avec le péché qui règne dans le monde. Donc il y a des conflits, et parfois des conflits avec soi-même. D'où l'importance de bien réfléchir. Être disciple implique un renoncement à tout, même à soi-même, comme le dit Jésus. Être disciple, c'est posséder comme si on ne possède pas. Être disciple, c'est avoir comme si on n'a pas. Ainsi donc, dit Jésus, en conclusion, au verset 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Jésus ne demande pas uniquement à ses disciples de renoncer à ce qu'ils possèdent, mais à tout ce qu'ils possèdent. À tout ce qu'ils possèdent. Cette expression désigne très clairement tout ce que l'on possède. Jésus ne demande pas ici à ses disciples, ici comme il l'avait fait pour le jeune homme riche, de vendre tout ce qu'il possède pour le donner aux pauvres ou bien aux nécessiteux. Non. Mais Jésus veut tout simplement faire comprendre à ses disciples qu'ils doivent être prêts à se défaire de tous leurs biens, voire même de leur propre vie, si la situation l'exigeait. Les richesses ne sont plus du moins pour celui qui veut devenir disciple de Jésus la référence ultime. La richesse n'est plus la référence ultime pour les disciples de Jésus. Elles ne doivent plus servir des fins personnelles et égoïstes, mais au contraire, le projet de Jésus, le royaume de Dieu, l'évangile de la bonne nouvelle. Jésus veut être Seigneur comme nous l'avions chanté, veut être Seigneur sur nous, sur nos vies, sur nos biens et sur tout ce que nous sommes. Et autant que disciples de Jésus, notre vie doit être soumise à sa direction, à son autorité, à sa gouvernance. Et la gestion de notre temps, de nos biens, de nos richesses, doit se faire sur la base de l'enseignement de notre Maître, en tenant compte de son objectif, de son but, et aussi bien pour l'Église que pour le monde. La question que nous pouvons nous poser est de savoir si Jésus est réellement le Maître sur notre vie, sur nos biens, ou bien nous avons toujours du mal ou des difficultés à vivre notre vie selon son exigence, dans un abandon total, comme nous l'avions chanté tout à l'heure. Pour nous qui sommes déjà chrétiens, qui sommes déjà disciples de Jésus-Christ, j'aimerais nous exhorter ce matin à aller jusqu'au bout dans notre engagement avec le Seigneur. Ne soyons pas comme ce roi ou ce paysan qui se sont engagés à moitié uniquement. Ne restons pas à mi-chemin dans notre marche avec le Seigneur. J'aimerais nous exhorter à renoncer à tout ce qui peut entraver notre engagement avec le Seigneur. Ne laissons rien ni personne nous retenir, nous empêcher de vivre aussi totalement que possible la liberté à laquelle le Seigneur nous a appelés. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement pour mettre les membres de notre corps au service de notre Seigneur et de la justice. Enfin, j'aimerais nous exhorter à être des disciples de Jésus-Christ en toutes circonstances, même si cela doit coûter cher, voire la vie. Préparons-nous pour être prêts à nous défaire de tous nos biens si la situation l'exige. Préparons-nous pour demeurer disciples de Christ, même dans des situations extrêmes. Pour les non-chrétiens qui seraient parmi nous, ceux qui n'ont pas encore répondu favorablement à l'appel de Jésus, j'aimerais vous exhorter ce matin à considérer l'invitation que Jésus vous adresse, l'appel que Jésus vous adresse ici, dans ce texte, pour que vous ne restiez pas d'une manière anonyme dans la foule, mais que vous deveniez réellement ses disciples. Certains d'entre vous se sont trop contentés de marcher dans la foule, sans chercher à aller plus loin dans leur attachement à Jésus. J'aimerais vous dire que vous avez tout intérêt à aller plus loin dans votre connaissance de Jésus, dans votre attachement à Jésus, dans votre attachement à lui. Car, il le disait à ses disciples, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses actes. Les exemples récents, en particulier politiques, les bouleversements de régime, nous ont montré que des hommes très puissants, juste quelques mois, sont devenus les hommes les plus faibles, voire les plus recherchés de la planète. Personne n'est à l'abri. La richesse matérielle, la richesse intellectuelle, la force physique ne peut être une source d'assurance fiable. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Si vous travaillez uniquement pour gagner votre vie terrestre, vous la perdrez et c'est une certitude, à mon sens, sur la base de ce que Jésus vient de dire. Mais si vous acceptez de pouvoir vous défaire de toutes ces richesses-là, de toutes ces assurances-là, pour vous attacher finalement à la seule vraie assurance, à savoir Jésus-Christ lui-même, là, vous gagnerez votre vie et vous ferez partie de ceux qui seront heureux et qui recevront la vie éternelle lorsque le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire. Chers amis, très chers amis, qui n'ont pas encore franchi le pas, qui n'ont pas encore été plus loin dans leur marche, qui se sont contentés peut-être de rester dans la foule, je vous encourage à devenir disciples de Jésus, car à mon humble avis, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, même qui puisse arriver à un être humain. Que le Seigneur nous aide, aide chacun d'entre nous ce matin à aller plus loin dans notre attachement à notre Seigneur Jésus-Christ, dans notre soumission à lui et dans notre obéissance à sa voix. Amen.